Et vous, que pensez-vous du conte? Sur Radio Sud, chaque voix compte.
On continue notre promenade au Québec pour aller rencontrer François Lavallée. Bonjour François Lavallée.
Bonjour Janine.
Tout se passe bien au Québec?
Ah, je dirais que ça se passe dans un climat tropical. Montréal, il fait hyper chaud, c'est humide.
Ah ben oui, mais ici par contre c'est l'automne.
Ah
On
oui, c'est l'automne en
fait
plus.
ce qu'on peut, quoi. François Lavallée, vous faites partie de ceux qui sont comptés parmi la relève du conte au Québec, c'est-à-dire ceux qui sont venus juste après les pionniers qui ont relancé le conte au Québec et bien plus loin que le Québec d'ailleurs. Vous avez aussi, finalement, vous avez participé à ce renouveau du conte en participant à la fondation des Dimanches du conte. Ça, c'est, je dirais, votre place dans le conte au Québec. Mais vous avez un répertoire tout à fait particulier. Quelles sont les sources de votre univers de conte? On retrouve souvent l'enfance. Est-ce que c'est là votre créneau favori?
Ben, c'est vrai que dans mes récits, j'aime bien plonger puis mettre en couche le récit intime de l'enfance. Mon commencement à moi, plus personnel du monde, le monde que je connais le mieux, qui est celui le plus près de moi. Puis à ça, j'aime bien superposer après différentes couches, entre autres une couche sociale, des fois qui peut être politique, philosophique, anthropologique. Puis j'aime aussi superposer une autre couche qui est celle de l'imaginaire, pour nous amener à créer une verticale pour aller voir plus loin que nos petites vies personnelles, voir ce qui nous dépasse, nous. On peut donner plein de noms à ça, mais pour moi, l'art se rapproche de cette verticale-là, sur le chemin horizontal des hommes. Fait que j'aime bien partir du chemin horizontal de l'intime pour aller après ailleurs.
Et qu'est-ce que vous avez trouvé au bout de la verticale?
Ah, c'est une espèce de recherche continue, mais je pense que ça vient donner de l'épaisseur à notre parcours horizontal d'homme. Et de femmes qui marchons, surtout avec ce qu'on vient de traverser, qui nous a, puis moi qui m'a ramené dans cette verticale-là, qui me permet d'amener de la substance. C'est ce qui fait pour moi que les histoires ont une certaine épaisseur quand on va fouiller en hauteur aussi. Fait que c'est ce qui m'intéresse dans l'enfance, il y a tout ça pour moi. C'est un point de départ pour après aller voir le chemin parcouru.
Et le chemin parcouru vous a amené un peu dans tous les festivals du monde et pas spécialement que des festivals d'ailleurs. Comment, dès le moment où vous avez quand même participé à des manifestations aussi bien en Europe qu'en Afrique, sans compter évidemment le Québec, comment est reçue justement cette vision du monde que vous avez dans des cultures différentes, dans les cultures différentes que vous avez rencontrées?
Je me rends compte que la force de l'imaginaire, puis au moment où l'imaginaire, pour moi, c'est un peu comme une cabane suspendue. Cabane pour enfants. Mon père, il nous avait construit à moi et mes deux frères une cabane quand j'étais jeune dans la cour. Puis elle nous donnait des points de vue sur le monde qu'on n'avait pas quand on avait les deux pieds sur terre. Et pour moi, ces espaces suspendus-là qu'on appelle. Que j'ose aujourd'hui appeler des espaces, des territoires imaginaires, ce que je trouve, c'est pour ça que je fais ce métier-là. J'aime créer des espaces imaginaires où même si on est de cultures différentes, on vient voir la vie autrement. Puis quand on est devant une œuvre d'art, devant un magnifique paysage, qu'on parle une langue différente, qu'on vient d'une culture, quand c'est beau, quand c'est. Puis pas toujours juste la beauté, mais l'équilibre. Parce que des fois, c'est bon aussi d'avoir du noir foncé dans nos peintures, dans nos toiles, du sombre, du. Mais pour moi, c'est l'équilibre qui fait qu'on trouve ça beau. Puis les espaces suspendus, l'art est un espace suspendu qui permet d'observer le monde et d'être ensemble dans cet espace-là. Fait que moi, je crée des assemblées. Fait qu'on soit partout au travers le monde, je crée des assemblées avec mes mots, avec mes sons, avec mes silences, avec mon corps qui a envie de communiquer puis de créer Ben, une rencontre.
Cette vision-là, vous l'aviez. C'est ça qui vous a projeté dans le monde du conte, parce que finalement, vous avez commencé très jeune dans cet environnement. Qu'est-ce qui vous a amené
J'ai commencé assez jeune, j'avais 18 ans. Moi, je sortais des camps de vacances au Québec, les camps de vacances qui sont cet été fermés. Et ça nous fait prendre conscience de tout ce que ça peut apporter. Les camps de vacances au Québec ne sont pas comme les camps de vacances en France. Je ne sais pas trop en Belgique comment ils ont été construits, mais chez nous ici, c'est des territoires qui ont été à l'époque achetés par les communautés religieuses, des territoires en forêt, des lieux magnifiques qui ont été achetés pour presque rien des fois. Puis de ça, 100 ans, fait que les territoires sont toujours restés. Puis à un moment donné, ils sont passés aux laïcs, à des organisations, des directions de camps qui ont continué à tenir les missions de ces lieux-là. Mais c'est réellement des lieux où on mélange l'imaginaire et le réel. C'est qu'on vient passer 2 semaines comme enfant, et c'est comme une traversée de la forêt, comme dans les contes. On arrive au début, puis on apprend plein de trucs. Entre autres, de cette espèce de séparation du nid familial. Et quand on a 6 ans, puis qu'on se retrouve pour 2 semaines en camp, à devoir créer un collectif avec d'autres jeunes, avec des adultes, des animateurs qui nous accompagnent, pour moi, c'est un territoire exceptionnel d'apprentissage de la vie, qui est toujours entre le réel et l'imaginaire. C'est en plein ce que je fais avec mes histoires. Je cherche toujours à être entre le réel et l'imaginaire. On pourrait parler de réalisme magique, par exemple.
Peut-être là que justement votre enfance compte beaucoup dans votre répertoire. Est-ce que vous comptiez dans vous-même déjà à l'époque dans ces camps?
C'est là qu'on m'a fait le merveilleux cadeau de me nommer conteur. Au bord du feu de camp, quand je travaillais dans les Hautes-Laurentides, à 3 heures au nord de Montréal, en forêt. Puis on m'a fait le merveilleux cadeau de me dire, toi, on aime ça quand tu racontes. Pourrais-tu demain continuer l'histoire que tu as commencée? Et ça fait 25 ans que je fais ce métier-là.
Je vous invite alors à continuer l'histoire maintenant sur les ondes. On vous écoute dans une petite histoire, d'accord?
Ben oui, je pourrais peut-être vous parler que dernièrement, je suis allé chez mes parents qui habitent en Montérégie, près de la frontière américaine. C'est là où j'ai grandi, puis on a fait du camping avec ma blonde puis ma fille dans la cour avec la pandémie, puis c'est dans cette cour-là qu'avec mes frères, on jouait au baseball quand on était jeunes. On était des sportifs, puis les enfants du quartier, ils venaient, ils se rassemblaient là chez nous, puis on sortait nos mitts de baseball en cuir, puis nos bâtons. Puis on était des bons joueurs de baseball, les Lavallée. Puis dans le fond de la cour, il y avait une grande haie de cèdre, une immense haie de cèdre. Puis pour un bon frappeur de baseball, l'objectif à l'époque, c'était d'envoyer la balle par-dessus la grosse haie de cèdre. C'était notre coup de circuit, notre tombe-run. Puis je me rappelle que de l'autre côté de la haie, il y avait le cimetière. C'était le cimetière des Anglais, de la Trinity Church. Puis nous autres, à l'époque, à 10 ans, moi, je connaissais rien de l'anglais, puis rien des Anglais. Puis ce qu'on connaissait, c'est quand le pasteur criait après ses 3 gros chiens d'Oberman. Le pasteur, il y avait 3 chiens, puis on aurait dit quand la balle touchait l'herbe du cimetière, que ça criait comme une vibration étrange, qu'elle allait chatouiller les orteils des morts assemblés, puis qui se rendait jusqu'aux 3 chiens, qui nous laissait 10 secondes top chrono pour aller chercher notre balle avant de partir dans notre direction. Que des jours, Janine, on n'entendait pas les chiens. C'est ces jours-là que nos bâtons de baseball devenaient des glaives de chevalier. Nos mitts en cuir devenaient des chapeaux guerriers. Puis nous autres, on devenait des Alice au pays des merveilles. On traversait la grande haie de cèdre. Puis de l'autre côté, on trouvait notre balle de baseball sur l'herbe. En se penchant pour la ramasser, puis en levant la tête, on pouvait voir entre les pierres tombales des McCaslin, McGarrigle, McDonald. Au loin, il y avait un terrain en friche qui allait devenir plus tard notre terrain de soccer. Puis plus loin dans l'horizon, il y avait le ruisseau de nos rendez-vous. Dans le cimetière, on n'entendait pas les chiens, puis c'est là qu'on se mettait à courir. Entre les pierres tombales, qui devenaient comme un labyrinthe à l'affût des caprices de la bête. Puis devant l'absence de la bête, on courait le cœur exalté puis le souffle court jusqu'aux herbes hautes de la friche. On roulait dans les fardoches. Et là, en dessous de nos genoux, dans la friche, et de nos mains, il y avait un monde de bestioles qui s'agitaient dans des tunnels de terre et des temples de cailloux. Tout autour de nous autres, il y avait des présences que le vent faisait disparaître. Puis on rampait à l'abri du soleil, sur des sentiers tapés par des pilleurs de grands chemins, jusqu'à la bordure du boisé, là où aller vers l'infini, le ruisseau de nos rendez-vous. C'est un ruisseau comme dans les films avec des gros arbres parapluies. Puis au bord du ruisseau, mais tout prenait de la grandeur. Les arbres, les oiseaux, les jeux de lumière au travers les branches. L'esprit de la nature est au fond un grand conteur. Je pense que c'est lui qui est à la source des fables, des romans et des épopées. C'est au bord de ce ruisseau-là, avec mes frères, qu'on allait faire du BMX. Des fois, on se ramassait dans le creek. On se retrouvait tout beurré, plein de boue, puis ma mère à la maison disait « Allez, allez, passez un coup d'ose, les gars, là. » C'est aussi au bord du ruisseau qu'on croisait souvent une vieille avec un chien. On savait pas où elle allait, la vieille. On savait pas d'où elle venait. Elle était comme étrange, mystérieuse. C'est au bord du ruisseau que j'ai donné mon premier bec sur la bouche à la belle Julie. C'est aussi au bord du ruisseau qu'il y avait un arbre magnifique avec une corde tout effilochée. C'était l'arbre à Tarzan. C'est là-bas avec Balou dans les scouts. Balou qui nous disait « Ok, les petits gars, allez chercher des branches, des écorces, des cailloux, des roches assez grosses pour qu'on fasse un rond de feu. » Et là, Balou, lui, savait allumer le feu. Il prenait une seule allumette avec un peu d'écorce de bouleau, d'insectes. Il allumait une petite flamme avec des brindilles. Puis il montait ça comme une sculpture, comme une œuvre d'art. Et Balou, au bord du feu, nous faisait rêver. Puis il nous racontait des histoires. Et pour moi, mon enfance, c'est tout ça. C'est le bord du ruisseau. C'est le collectif. C'est la bande qui se rassemblait. C'est drôle, mais j'ai envie de continuer à raconter mes histoires. Puis le spectacle que je suis en train d'écrire, le ruisseau, ça part de cet élan-là de jeunesse où on se mettait une mythe sur la tête, puis nos bâtons de baseball devenaient des lièvres, puis on se prenait pour d'autres. On jouait des personnages. Des personnages plus grands que nature. Ça me donnait le goût de rêver.
Ça donne envie d'aller le voir, votre prochain spectacle. J'espère qu'il va venir en Europe dans pas longtemps.
C'est le ruisseau. C'est vraiment une réflexion puis un hommage aux adultes qui donnent envie de grandir puis qui enlèvent la peur de vieillir.
Merci à vous, François Lavallée, et à bientôt.
Merci. Au plaisir. Là, puis bon été à tout le monde.